Pauline Pucciano, Paradict, 22 septembre 2071. Vers un appauvrissement de l'anglais international, notre expert linguiste répond à vos questions. Une saison cyclonique intense prévue en 2072. Sixième extinction de masse, disparition officielle des vaches charolaises. À l'étage le plus profond du complexe de la WA, l'Intelligency bénéficiait de privilèges technologiques effarants. Abel ne perdait rien des détails qui prouvaient que l'agence était la fille aînée de la WA. Des robots nombreux, de toutes les formes et de toutes les tailles, se promenaient dans les couloirs, acheminant des informations sans passer par aucun réseau, ni par aucune oreille humaine. Des scans génétiques étaient installés à toutes les portes. Des drones caméras intelligents, capables de suivre une action dans son ensemble, bourdonnaient dans un air frais et pur, qui s'engouffrait délicieusement dans vos poumons irrités. La vieille femme qui avait la charge du briefing d'Abel ressemblait à une aimable grand-mère d'autrefois. Sa voix, en revanche, était nette, tranchante et effilée comme la lame d'un rasoir. Nous commençons toujours les études à l'Intelligency par une mission d'infiltration sous haute surveillance. Une mission sans enjeu géopolitique majeur, une simple mission de renseignement. Cela nous permet de tester le caractère des recrues, leur résilience, leur profil. Cela permet aussi de remettre en question leur choix avant qu'il ne soit trop tard. Avez-vous un problème avec ça ?
Non, répondit Abel.
Vous êtes jeune et particulièrement beau, Abel Costa.
C'est là mon moindre défaut, dit en souriant Abel.
Vous avez le profil idéal pour une mission de renseignement que nous avons envie de mener depuis quelques semaines, dans un groupuscule essentiellement masculin et exclusivement réservé aux jeunes, voire aux très jeunes hommes, qui se fait appeler Carpe Fatum.
Un groupuscule terroriste ? Demanda Abel.
Oui, même si aucun attentat n'a été revendiqué officiellement par eux à ce jour. Il semblerait que la limite d'âge pour faire partie des Happy Few ne dépasse pas la vingtaine.
« J'ai 22 ans, dit Abel.
« Mais vous avez une gueule d'ange, vous pouvez en paraître 18. »
Abel ne sourcilla pas. « Quelle est leur ligne politique ?»«
Grosso modo, la critique de la gérontocratie, la revendication du pouvoir aux jeunes générations. Plus précisément, c'est à vous de nous le dire. Nous n'avons pas très bien saisi le fin mot de leur manifeste. Le leader est un jeune homme charismatique, un certain Cyril Borgeist, potentiellement homosexuel. » Votre mission est simple et de courte durée. Vous rendre à une réunion du groupe dont voici les coordonnées, pénétrer dans l'organisation, ouvrir vos yeux et vos oreilles, vous rapprocher si possible du leader et disparaître au bout de 3 semaines.
Disparaître ?
Oui, vos cours à l'académie commencent à la mi-octobre.
Abel hocha la tête, un petit sourire flottant sur les lèvres.
Avez-vous des questions ?
Non.
Pour toutes vos recherches et vos communications numériques, vous utiliserez exclusivement cet ordinateur mobile. Toute utilisation de vos appareils personnels serait considérée comme une faute grave.
Compris.
Je vous donne rendez-vous pour un premier débriefing le 30 septembre à 8h45. Soyez ponctuels. En cas de danger réel, vous pouvez contacter ce numéro. Mais tout appel qui nous apparaîtrait comme intempestif vous écarterait du terrain pour le reste de votre carrière.
Abel jeta un œil au numéro qui venait de s'afficher sur l'ordinateur mobile qu'on venait de lui confier.
« Un conseil, mémorisez-le. »
« C'est déjà fait. »
La vieille femme considéra le jeune homme avec attention. « Vous pouvez disposer, Abel Costa. »«
Comment dois-je vous appeler, madame ?»«
Vous n'avez pas besoin de m'appeler. Si vous souhaitez vous référer à moi, en revanche, vous pouvez utiliser mon pseudonyme, Abuela. »
Abel se leva. Et, en s'inclinant bien bas, avec une pointe d'ironie, il quitta le bureau.
L'exhibit, un flot de bruit et de fureur de vivre. Quel autre endroit pour enterrer son existence d'étudiant ? Abel y avait traîné, tout au long de ses études, son besoin de se défouler, de hurler et de perdre toute mesure. Il y avait célébré le long dérèglement de tous les sens prôné par Rimbaud. Il y avait couché avec plus de filles qu'il n'en pouvait se souvenir. Il y avait consommé plus de drogue que son cerveau n'en pouvait supporter. Il s'était toujours réveillé le lendemain midi, frais et beau dans son miroir, l'esprit aussi acéré que la veille. Toutes ces transes organisées, tous ces délires encadrés ne laissaient chez lui aucune trace, ni souvenir, ni remords, ni gueule de bois.
Il se doutait qu'il n'en irait pas de même à 30 ou 40 ans, mais il n'en était pas là. Ce soir, comme tous les soirs, il était vêtu simplement, laissant agir cette beauté qu'il possédait comme un don. On venait toujours vers lui spontanément, on lui souriait, on lui offrait à boire, on croyait tous ses mensonges, on couchait avec lui. On ne lui en voulait même pas de s'en aller sans prévenir. Il n'avait qu'à se baisser pour cueillir les fleurs de la vie dans cette vallée d'abondance qui se déroulait à ses pieds, jusqu'à la satiété, parfois jusqu'à l'écœurement. Sa présence seule semblait être un cadeau qu'il faisait aux gens, un cadeau qui le dispensait d'en faire aucun autre. Abel était un Don Juan sans attache, libre de son bon plaisir. Ce soir, la fête battait son plein lorsqu'il arriva vers minuit. Il fit le tour des salles, comme il le faisait souvent, avant de consommer. La salle principale, ou salle Candy Crush, était décorée comme un jeu vintage des années 2000, avec des couleurs pastels fluorescentes et une musique électro déjantée. Les rayons roses, verts, violets tournaient, éclairant des visages en sueur, aux cheveux collants sur les tempes et des corps rebondissant tous au même rythme. Des délicats somptueusement parés, des filles à peine sorties de l'enfance, quelques sexagénaires dopés, des hommes de tous les milieux, de tous les styles, communiaient dans cette grande messe œcuménique. Le bar, dans un immense îlot central, se trouvait surélevé, à hauteur de la scène où se produisait le groupe et où des filles en transe exhibaient leur tenue d'apparat. Dans les chapelles latérales, l'atmosphère changeait. Une musique New Age accompagnait les montées et les descentes de ceux qui avaient consommé des stupéfiants divers dans la salle Woodstock, qui tenait de la fumerie d'opium. Sur des divans individuels ou collectifs, des gens étaient allongés, endormis ou simplement prostrés, rêvant les yeux ouverts ou balbutiant des discours sans suite. Dans la salle Citerre, des écrans géants diffusaient des images pornographiques sur fond de musique suggestive. Les écrans constituaient la seule source de lumière vive, d'improbables lustres à pendeloques où ce qui ressemblait à des chandelles diffusait une lueur tremblante, assurait le vague éclairage de la vaste salle pleine de recoins, en référence sans doute aux fêtes galantes d'une aristocratie promise à la destruction. Les corps dans l'ombre convulsaient en d'étranges coïts. Au bar, Abel rencontra Sonia, la chanteuse du Blue Note. Ils se parlèrent un moment, et elle lui offrit un cocktail d'excitant et d'euphorisant, dont elle lui dit grand bien. Ils dansèrent ensuite pendant un temps indéterminé, qui devait se compter en heures, sautant en rythme sur la musique dont les vibrations semblaient animer le ressort de leur propre corps. Abel ne pensait plus à rien, sauf au rythme de la musique et des stroboscopes. Il resta avec Sonia, qui conservait, même dans cet abandon, une sorte de distance mélancolique qui lui plaisait. Il décida de coucher avec elle et déroula son programme habituel de regards et de gestes d'invitation, auxquels elle répondit, comme elle le faisait toutes, favorablement. Ils ne parlèrent quasiment pas lorsqu'il l'emmena à Citerre, et ils consommèrent leurs désirs contre un mur douteux dans le clair-obscur versé par le lustre Louis XV. Dégrisé, Abel ressentit une pointe de remords en songeant à son frère. « Tu n'es personne pour moi, Sonia, mais mon frère est amoureux de toi. C'est avec lui que tu devrais coucher. » La jeune femme, que l'amour physique avait rendue encore plus mélancolique, eut un sourire fugace, mais Abel se sentait maintenant fatigué, et il lui dit au revoir par un rapide baiser sur les lèvres, avant de sortir de l'exhibit. Il avait une quinzaine de minutes de marche à faire pour rentrer chez lui. Comme toujours, la traversée de la rue parisienne fut un peu suffocante. La chaleur semblait avoir augmenté, ou était-ce à cause de sa propre agitation? Cela faisait des années que les nuits ne rafraîchissaient plus l'atmosphère. De rares noctambules qui vérifiaient leurs arrières traversaient l'espace urbain comme des spectres. Les véhicules électriques qui roulaient silencieusement, de loin en loin, faisaient également figure de voitures fantômes. La seule vie qui s'épanouissait dans la rue était celle des insectes, rampants et volants, et celle des batraciens qui s'en nourrissaient. Des chauves-souris, qui s'accrochaient par grappes durant la journée dans les anfractuosités des immeubles, voletaient en tous sens et piquaient parfois pour faucher de la nourriture. Abel se demanda s'il y avait encore des rats dans les égouts. Les mammifères terrestres étaient devenus de plus en plus rares. Même les chats et les chiens domestiques avaient vu leur longévité sérieusement entamée. Chlorotiques, quinteux, dépressifs, nourris par des propriétaires végétariens qui leur donnaient un régime trop peu carné, les pauvres bêtes avaient perdu de leur popularité. Abel songeait à toutes les espèces disparues, tous les animaux majestueux qui avaient régné dans des écosystèmes fragiles. Ours polaires, loups des montagnes, éléphants, étaient tombés comme des rois détrônés. Les espèces qui avaient survécu partout étaient les plus veules, les plus nombreuses, les plus primaires. Les vers, les cafards, les moustiques, les fourmis, les hannetons s'étaient mis à pulluler, préservant leur rapace attitré. Les buses et les chouettes avaient remplacé les pigeons parisiens, et on les voyait parfois piquer dans les rues désertes, au clair d'une lune lointaine. Abel venait de coucher avec Sonia, et il pensa à Alvar. La même expérience aurait revêtu pour lui une importance bien différente. Elle l'aurait comblé, nourri, elle aurait donné du sens à son attente, elle lui aurait ouvert un avenir. Tandis qu'à lui, cette expérience ne faisait rien. Il en avait toujours été ainsi, ou du moins, depuis si longtemps qu'il ne se rappelait rien d'autre. Les mêmes événements, les mêmes situations avaient atteint les deux frères, et Abel s'était toujours étonné de la profonde disparité de leurs réactions. La mort de leur mère, les maladresses méchantes de leur père, les succès de leur sœur avaient représenté des éléments fondamentaux de la vie d'Alvar, des chagrins profonds, des déceptions amères, des jalousies secrètes. Alvar avait vibré de toute son âme à chaque parole échangée dans cette famille. Il avait mis son être en jeu à chaque repas, à chaque virage de leur route. Tandis que les mêmes événements avaient toujours glissé sur Abel, c'était comme s'il y avait une vitre protectrice entre sa vie et lui. Ce qui lui arrivait ne l'atteignait pas vraiment. Il prenait sa vie comme un jeu, sans lui accorder trop d'importance, sans la prendre au sérieux. Était-ce lui qui n'était pas normal? Était-ce Alvar qui était démesurément sensible? À main titre, Alvar lui faisait penser à un délicat. Ces personnes pour qui la lumière, les petits incidents matériels de la vie, les virus sans gravité, devenaient mortels. Il devait souffrir le martyr à chaque scène de crime, compatir avec chaque victime, donner de lui-même à chaque interrogatoire. Abel s'imaginait parfaitement indifférent dans les mêmes situations, ou plutôt en proie à son démon particulier, ce démon orgueilleux et arrogant, l'ennui. Abel avait besoin de sensations fortes, de drogue, de danger, de défis. Lorsqu'il n'en avait pas, il avait l'impression de ne vivre qu'à moitié, dans une existence anesthésiée. Tout en marchant, il sentait au fond de lui un frisson nouveau et agréable, qui n'était dû ni au sexe facile qu'il venait de consommer, ni au rythme de la musique qu'il sentait encore battre dans ses veines, ni aux pilules euphorisantes. C'était la pensée de sa mission, qu'il caressait au fond de sa conscience comme le souvenir d'un amour clandestin. Cyril Borgheist, leader charismatique du mouvement des générations futures, était un défi à sa mesure. Pour la première fois de sa vie, il sentait qu'il ne serait plus obligé de mentir sur lui-même, du moins pas à ses supérieurs et à ses collègues. Il n'aurait plus à jouer l'agneau lorsqu'il se sentait loup. La distance qu'il ressentait toujours face à toutes les situations de la vie courante, le second degré permanent dans lequel il se tenait, et qu'il avait toujours vécu comme anormaux, devenaient les premières nécessités de son métier et acquéraient de ce fait une légitimité qu'il n'avait jamais eue. Devant sa porte d'entrée, il s'immobilisa un instant. Une chouette au plumage crémeux, qui semblait sortir d'un Moyen-Âge oublié, fondée dans un bruissement d'ailes sur une grenouille occupée à grimper à la paroi d'un immeuble. Son mouvement fut rapide, précis et gracieux, et Abel la suivit du regard jusqu'à ce qu'elle disparût dans l'ombre du toit. Dans cette ville en déshérence, seuls les rapaces avaient encore quelques grâces.